Bonsoir Maëlys.
Bonjour Mathias. Alors moi aujourd'hui...
Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre.
Je suis souple dans mes baskets.
Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je vous ai compris.
Alors madame Barr, la parole est à vous.
Ouais, moi ça fait 10 chroniques et toujours pas foutu d'attendre le jingle avant de commencer. Alors moi aujourd'hui, ça va être un court billet politique avec un peu de sociologie, un petit peu. Bon, on vous en avait, enfin, vous avez tous soupé d'Emmanuel Macron depuis ces deux dernières semaines et on n'ose même pas imaginer les prochaines années. Mais là, entre Macron en Jeep sur les Champs-Élysées, Macron le beau gosse, Macron l'économiste, Macron l'entrepreneur, Macron le philosophe, on a un curieux mélange des genres. Et personnellement, je n'ai jamais vu une telle mania politique autour d'une seule personne et ça m'interroge pas mal. Donc des personnes habituellement sensées et critiques qui deviennent les pires que les groupies des Beatles quand on leur sort la gauche en même temps droite, libérale en même temps sociale, ne tiquent même pas. Même les journaux qui se voulaient avant neutre, objectif et déontologiquement journalistes se changent désormais en presse orientée. Bon, je parle bien sûr du Monde qui est devenu à la République en marche que la Pravda était au Parti communiste soviétique. Donc là, je sais pas vous, mais moi, je vois remonter un chef d'État sur un jeep, trompette et gendarmes et la foule de badauds qui l'acclament. Bref, la grosse mise en scène du pouvoir et de la domination étatique aussi subtile qu'un film de Ridley Scott. J'ai envie de ressortir Max Weber, père de la sociologie allemande et premier grand théoricien de la domination, qui est arrivé bien avant Bourdieu, en fait, qui a pas mal pompé ses concepts.
Bon, là, je fais souvent Bourdieu avec pas mal de choses.
Voilà. Bon, là, je vais faire du Weber à la grosse louche, mais c'est juste pour donner des éléments d'analyse. Donc, en gros, Weber a pensé la domination à partir de ses manifestations historiques sur tous les continents du monde et en a sorti une typologie dont je vais vous résumer sommairement le premier niveau un peu élémentaire et qui peut servir à penser le cas Macron ces dernières semaines. Donc, le premier type de domination dont il parle est la domination rationnelle légale. Donc, c'est celle qui repose sur la légitimité des règles impersonnelles décidées rationnellement et conformes au droit dans une société. C'est la loi, c'est le droit, etc. Donc, c'est la domination du président de la République, choisi par le peuple et qui répond à la Constitution. C'est aussi celle des hauts fonctionnaires et de l'administration. Bon, le pouvoir du président Macron repose en grande partie sur ce ressort. On l'a choisi, il a des droits et des devoirs officiellement délimités. Le second type de domination que distingue Weber, c'est la domination traditionnelle, celle qui repose sur la tradition, donc on fait comme ça depuis belle lurette, l'habitude ou l'héritage. Bon, Macron, énarque, sciences-piste, un pedigree classique pour un président censé prouver ses compétences, et avec tout le décorum d'une fonction soi-disant sacrée, qui va avec, donc le char sur les champs, blablabla. Donc là, on a un peu traditionnel, on sort un peu du rationnel, n'est-ce pas, hein, on aurait dit que c'était la reine d'Angleterre et dimanche dernier et que c'était Stéphane Bern qui commentait à la télévision.
C'était Stéphane Bern qui commentait à la télévision.
Ah ouais ?
Sur France 2, oui.
Ah mais j'ai pas regardé les... D'accord. Bon bah d'accord. Tout est dit, présent, voilà.
Avec les belles explications de pourquoi on tire 21 coups de canon.
Oh là là, voilà, bref.
Parce qu'en fait, 21, c'était le nombre de coups de canon qu'on tirait quand il y avait quand la famille royale accouchait d'une fille. Et on en tirait 121 quand c'était un homme, un garçon.
Y a-t-il une interprétation genrée à faire de possible ?
Peut-être.
Est-ce que si ça avait été Marine Le Pen, on aurait eu 121 coups de canon ? Je ne sais pas. Bref, enfin, dernier type de domination.
Sur la foule, oui, surtout.
La domination charismatique. Et c'est là que Macron tranche avec ses prédécesseurs parce que visiblement, les gens le trouvent plus charismatique que les autres. Et vous, est-ce que vous trouvez que Macron est charismatique ?
Oui, c'est sûr, surtout avec son feu sur la langue.
Et alors moi, je n'entends pas.
Oui,
ce
non, ça on m'en parle aussi, mais je ne
ça,
je pense
que
pas.
C'est un mythe.
Ça dépend des fois, je pense qu'il a travaillé dessus parce qu'au début, quand il commençait ses meetings, en novembre, octobre, il l'avait vraiment, hein, ça s'entendait, c'était
d'accord.
À mourir de rire.
Alors moi, je ne pense pas qu'il soit charismatique, je pense que les gens le trouvent beau gosse et que la beau-gossitude tient lieu de charisme dans notre société.
Ben après, la comparaison est facile. Hein.
Surtout ma grand-mère, nous dit la régie. Ouais. On ne parle pas assez du charisme des blattes, je trouve.
Donc bon, effectivement, Macron est quand même plus charismatique que ses prédécesseurs et ça cadre pas mal avec des éléments évoqués par Max Weber en fait. Bon, dans son parti, il y a lui, EM, il y a les autres, tout le monde qui le suit et c'est lui qui a toujours le dernier mot. Pas comme ailleurs, coucou le Parti Socialiste. Et Benoît Hamon. Bref, on suit l'homme et le projet, mais pas la fonction ni le programme qui bouffe un peu à tous les râteliers. Macron a bouleversé un peu l'ordre établi en accédant au pouvoir dans un contexte troublé. Le FN est à nos portes, panique, panique. Et seul lui peut nous sauver de, celui pouvait nous sauver de Marine Le Pen. Enfin, ce charisme est menacé d'instabilité. Donc ça, c'est un élément que met en évidence Weber, le charisme, la domination charismatique est instable. Donc en clair, pour succéder à Macron, il n'y a personne. Il faudra bien sûr routiniser le charisme de Macron au moyen d'autres attributs pour le transmettre à ses successeurs. Donc regardez ce que le général de Gaulle a fait avec la Ve République. Bon, visiblement, Macron semble avoir un peu de ces trois types de charisme, mais surtout du troisième charisme, ce qui expliquerait en fait l'ambiance actuelle depuis une semaine, où c'est plutôt, on a un petit peu de mystification ou d'enfumage à l'encens de sa personne. Donc personnellement, ça me donne tour à tour envie de rire ou la nausée, tellement cela dépasse l'entendement. Donc on a eu la légende dit que Macron, ce visionnaire, cet ambitieux, avait prédit qu'il serait président de la République à Alain Minc lorsqu'il a intégré l'inspection des finances. Voilà, premier élément. Son histoire d'amour fulgurante avec Brigitte façon Roméo et Juliette dans deux milieux sociaux interdits, blablabla, des générations différentes, etc. Donc c'est marrant. François Hollande et Valérie Trierweiler, c'était beaucoup moins glamour à l'époque. On a eu la longue marche jusqu'au micro pour bien marquer la personnalisation du pouvoir, etc. Bref, et on a enfin eu Le Monde et son cortège de journalistes chien de garde de Macron. Bon, je passe sur tout l'avant de la campagne et l'après-campagne. Donc je vous renvoie ici aux excellents articles d'Acrimet sur le sujet et sur l'édito scandaleux du 10 mai intitulé « L'étrange procès en légitimité fait à Emmanuel Macron », dans lequel Le Monde accuse notamment, je cite, « les procureurs de la France insoumise et les sans-culottes autoproclamés qui n'ont pas attendu 24 heures pour descendre dans la rue et décréter la guerre sociale ». Je cite, ce qui pour Le Monde représente un déni de démocratie, la moindre des corruptions démocratiques voulant qu'on attende qu'il soit bien installé pour commencer à le critiquer. Donc voilà, ils oublient un peu que le droit de manifester son opposition à un président de la République est un droit fondamental garanti à tout citoyen toujours de l'année, même si c'est le jour d'élection du président, et que Macron a été élu sur son programme et que rien n'empêche les gens qui ne sont pas d'accord de le dire. Hop hop, c'est Macron, exit les règles les plus fondamentales de la démocratie, bref. Le déni de démocratie, c'est eux, et c'est leur macromania qui devient dangereuse. Donc dernier point pour conclure cette chronique, je ne résiste pas à vous lire le début d'un article du Monde consacré à, je cite, la philosophie du macronisme. Parce que oui, quand c'est Macron, l'idéologie propre à la politique devient de la philosophie. Tiens, encore un enfumage à coup d'encensoir. L'argument d'autorité se nommant ici Paul Ricoeur. Donc attention, sortez la brosse et le cirage. Donc je commence à vous lire les premières lignes de l'article. Mais qui est-il, Ricoeur ou Rothschild, l'héritier de Rocard ou une rockstar, le président Nouveau Monde ou celui de la fin de l'histoire? Est-il la figurine choyée de l'élite déterritorialisée ou la figure réconciliatrice d'une France fracturée, l'homme de la troisième voie ou la tête de pont du capitalisme financier? Depuis le sacre du Louvre le 7 mai, la France se demande de quelle façon Emmanuel Macron relie sa pensée et son action. Ouais, moi aussi, je réfléchis à quand je pense, à comment je vais agir, etc. Voilà. Depuis sa victoire éclair, le monde s'interroge sur la manière dont cette start-up politique articule le dire et le faire. De quelle manière ce jeune monarque républicain aux allures de chérubin conjugue sa formation philosophique et sa pratique politique. C'est beau. Hein. La réponse est sans doute dans ce « et en même temps » que le nouveau président prononce si souvent. Car Emmanuel Macron se présente à la fois comme de gauche et de droite, social et libéral, soucieux de conjuguer le roman national et l'histoire globale, le sacre de Reims et la fête de la Fédération. Pierre Nora et Patrick Boucheron, la mémoire et l'oubli, la révolution et la monarchie. Ce n'est pas le « ou bien kierkegaardien », mais le « et ricœurien », cette façon de penser ensemble des choses hétérogènes qui le caractérise. Donc là, le journaliste interroge... Un prof de philo. Vouloir par exemple en même temps la libération du travail et la protection des plus précaires, cette manière d'introduire une tension soutenable entre deux énoncés apparemment incompatibles est vraiment très ricœurienne. Explique Olivier Abel, professeur de philosophie et d'éthique à la faculté de théologie protestante de Montpellier. Bon, je m'arrête là parce que le reste du torchon était payant et réservé aux abonnés, donc j'ai pas voulu continuer. Voilà, j'aime beaucoup les philosophes, je n'ai rien contre eux, mais voir Ricoeur invoqué de cette manière pour justifier le libéralisme et un projet purement politique me semble un peu choquant. Et pour finir, si vous voulez survivre aux 5 prochaines années, désabonnez-vous du Monde si ce n'est pas déjà fait. Gardez Ricoeur de côté pour la littérature, la phénoménologie, l'herméneutique et l'éthique, mais éloignez-nous surtout de la politique et surtout ressortez ce cher Max Weber, notre plus fidèle ami depuis un siècle quand il s'agit de décortiquer la politique. Voilà.
Merci Maëlys, au risque de te décevoir, ce n'est pas 3 prochaines années, mais 5.
Ah pardon, 5 prochaines années, j'avais marqué 5. Il y a eu 3.
Alors c'est drôle ça, oui, Olivia Bell, je l'ai reçu l'autre jour en séminaire, il avait l'air beaucoup plus sympa que ce qu'il écrit dans les colonnes du Monde.
Bon, après, bon, c'est une petite citation, c'est pas ce qu'il a dit avant ni après. Bref, et nous avançons, nous sommes nous aussi en marche dans le temps l'émission.
Stop.
Oh, ça va,
c'est pas parce que c'est la dernière que tu peux te permettre ce genre de truc.
C'est bien, j'aime bien être recadré par Rémi de temps en temps.
Parce que c'est ton régulier.
C'est mon régulier. Et comme d'habitude, j'ai quelque chose à vous dire.